Radio Okapi.
Bienvenue à tous. 100% Jeunes revient sur le lancement du projet d'assistance technique à l'élaboration du programme d'urgence intégré de développement communautaire pour l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes de toutes les provinces de la RDC. C'était le 17 septembre dernier ici à Kinshasa. Quelles sont les grandes articulations de ce projet? Comment les jeunes peuvent-ils bénéficier des acquis de ce projet? C'est parmi les questions qui feront l'objet de votre magazine en ce jour. Encore une fois, bienvenue à tous. La cérémonie du lancement au mois de septembre dernier du projet pour l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes de toutes les provinces de la RDC a été présidée par la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, en présence de plusieurs personnalités et partenaires nationaux et internationaux. Jean-Désiré Kanyama était présent. Voici son reportage.
Pour la ministre des Affaires sociales, ce projet cadre avec la vision du chef de l'État de placer les questions de l'emploi des jeunes et du développement communautaire au cœur de son quinquennat. Rose Boyata.
Par cette option, Son Excellence Monsieur le Président de la République vient appuyer le point central susceptible de booster rapidement le développement intégral de notre pays à partir de la base. En effet, étant donné que le chômage des jeunes constitue une forme très avancée de vulnérabilité et une conséquence de la pauvreté, l'emploi des jeunes est à la fois un effet et un facteur de développement.
Par ailleurs, cette vision du chef de l'État cadre avec la stratégie et les actes prioritaires d'intervention du groupe de la Banque africaine de développement, un des partenaires privilégiés de la RDC. C'est ce qu'a déclaré son représentant Dabiré Jean-Marie Vianney.
Le groupe de la Banque africaine de développement n'a donc pas hésité un seul instant à mobiliser rapidement ses équipes afin d'accompagner la préparation et l'évaluation du projet d'assistance technique concerné. Le pacte PIDC est une assistance technique ciblée financée par le groupe de la Banque africaine de développement à hauteur de 1 390 000 dollars américains en dons.
Ce projet d'assistance pour l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, vous venez de le suivre, est financé à hauteur de 1 390 000 dollars par la Banque africaine de développement. C'est pour préparer, consulter et faire participer les jeunes dans l'élaboration de ce programme. Alice Mirimo, directrice générale du Fonds national de promotion et de services social, nous en dit plus au micro de Jean-Marc Matouaki.
C'est un programme qui émane de la volonté du chef de l'État qui, durant les promesses qu'il a fait pendant sa campagne électorale, il a mis l'accent sur la promotion de la jeunesse congolaise parce que, comme vous le savez, beaucoup de jeunes sont perdus dans différents problèmes. Il y a d'autres, à force de rester dans l'oisiveté, ils sont attirés vers le banditisme, vers les groupes armés, vers les pratiques de délinquance. Et cela est inacceptable parce que partout au monde, le développement est venu par la jeunesse. Et dans notre pays, la jeunesse représente un grand potentiel. Avant que nous puissions voir la richesse du sous-sol, nous devons d'abord regarder notre population. Et la jeunesse est en majorité dans cette population. Voilà pourquoi, durant le mandat du chef de l'État, il a voulu mettre l'accent sur la jeunesse pour qu'il puisse réussir et amener le développement intégral dans notre pays. Parmi les acquis, il y a aussi le fait que moi qui vais coordonner ce processus, je suis moi-même jeune. Donc je connais bien toutes ces réalités que traversent les jeunes. Je sais déjà quand un jeune a terminé les études, tous les cursus et jusqu'à avoir son diplôme d'université, et le grand challenge c'est de trouver de l'emploi. Et moi j'ai toujours dit, le grand challenge c'est plutôt d'en créer. Nous devons être des créateurs d'emplois, nous les jeunes. Et voilà, donc ça c'est un acquis et en plus je suis jeune femme. Donc les jeunes femmes auront aussi une attention particulière dans ce processus. Et à ce moment, je précise que le ciblage qui a été fait, c'est les jeunes diplômés tertiaires au chômage, donc tous ceux qui ont eu leur diplôme et qui sont en train d'errer par-ci par-là. On ne sait même plus où est-ce qu'il faut frapper pour trouver du travail. Nous allons nous occuper de cette catégorie de la jeunesse. Les jeunes urbains en situation de grande précarité, ils existent. Il y a beaucoup de personnes, des jeunes qui commencent à quitter le village, croyant qu'en ville, il y a tout le bonheur du monde, mais quand ils arrivent en ville, c'est l'oisiveté totale. Les jeunes ruraux en situation de grande précarité, il y a plus de choses qui nous attirent vers des villages. Mais nous sommes en train de voir des stratégies à mettre en place pour que les villages soient plus attrayants et que les jeunes y trouvent plutôt leur moment à passer pour leur épanouissement. Il y a aussi des jeunes en conflit avec la loi, les jeunes désœuvrés, les jeunes ou les enfants qui sont abandonnés et qui sont en train d'errer par-ci par-là. C'est eux que nous allons aussi valoriser. Ils vont quitter la rue pour servir réellement la nation. Il y a aussi les jeunes ex-combattants et autres enfants et jeunes marginalisés en milieu rural. Ils sont aussi les bénéficiaires de ce projet. Les jeunes en situation de handicap ou des jeunes qui souffrent de troubles psychologiques graves. Personne ne sera discriminé. Et l'objectif, c'est de développer des stratégies et de développer des programmes et projets qui vont résorber tous ces jeunes. Ceux qui seront en situation de conflit avec la loi ou avec des problèmes psychologiques graves, ils vont d'abord connaître une réinsertion psychosociale. Et il y aura des étapes de réinsertion. Et je dois vous avouer que le programme, il sera étalé sur une période donnée avec des phases. Ce qui a démarré le jour du lancement, le 17 septembre, c'est le démarrage de la première phase. Et dans cette première phase, nous avons fait un ciblage et un zonage qui va faire en sorte que le travail doit, les chefferies, les villages, les secteurs, les communes urbano-rurales vont avoir des plans locaux de développement. Ce sont ces plans locaux de développement qui seront faits sur des filières porteurs de développement comme l'agriculture, les secteurs d'environnement et assainissement aussi porteurs de beaucoup d'opportunités d'emploi, beaucoup d'opportunités d'affaires. Nous allons aussi voir comment faire de NTIC, les nouvelles technologies de l'information, comme un secteur porteur d'emploi chez nous. Et tout cela va permettre de résorber beaucoup de résorber le chômage et d'amener beaucoup d'opportunités d'emploi et de création d'emplois pour les jeunes. Il n'y a pas que les emplois, il y a aussi la formation professionnelle. Parce qu'avant que quelqu'un puisse créer son emploi ou qu'il soit accepté sur le marché de l'emploi, il faut qu'il ait des capacités et des compétences. Et donc, les filières de formation professionnelle vont être définies et pourquoi pas élargies. Nous savons qu'il y a des institutions étatiques connues qui sont dans la formation professionnelle. Nous connaissons les cas de l'Institut de l'INP, qui est maintenant répandu dans plusieurs endroits dans notre pays. Nous allons réfléchir avec l'INPP comment élargir encore d'autres modules et comment capitaliser les acquis qu'ils ont déjà sur sur cette matière-là pour que beaucoup plus de jeunes profitent de cette initiative présidentielle. Et donc, toutes les énergies seront mises en œuvre pour que pendant cette période qui doit être une période courte d'élaboration de ce programme, nous puissions avoir un document précis, un document qui va être comme une base pour le développement de notre pays.
Hervé Vauca a quant à lui approché des jeunes présents au lancement de ce projet pour savoir comment ils ont accueilli ce projet, mais surtout quelles sont leurs attentes. On les écoute.
Je suis Madame Liliane Lelo, je suis la vice-présidente du Conseil national de la jeunesse. Ce que nous attendons de ce projet, c'est la prise en compte de la jeunesse sur l'ensemble du territoire national. Nous voulons que ce projet soit un projet réaliste. Que le budget ne soit pas juste consommé par des réunions techniques, mais qu'il y ait du travail sur terrain et qu'il y ait des réalisations. Qu'on ait par trimestre le nombre de jeunes qui seraient insérés dans la société et aussi l'évaluation de ces projets à mi-parcours. Mais aussi, nous voudrons aussi que le ministère de la Jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté soit partie prenante, parce que quand on parle de jeunes, sans le ministère de la jeunesse, c'est contre le jeune. Nous saluons le dynamisme de madame la directrice qui est en train de piloter ces projets. Madame Alice, félicitations, parce qu'elle est là, elle vient de la jeunesse. Voilà pourquoi ce projet marche. Avec cette dame, nous pensons que le défi de la jeunesse, même pas dans la totalité, mais au moins les jeunes qui sont vulnérables, surtout dans les carrés miniers et surtout dans des villages, les jeunes Kuluna seront réellement pris en compte.
On m'appelle Trésor Mbouen de Massia. Je suis le président communautaire de la jeunesse de la communauté baptiste du Congo. En tout cas, le projet est le bienvenu. Le service technique nous a déjà contacté de la jeunesse et ses projets. Et nous l'avions déjà apprécié dès le départ. Et nous sommes vraiment prêts à pouvoir accompagner l'organe technique qui est en train de pouvoir organiser ces projets. Vous savez, aujourd'hui, messieurs les journalistes, les 70% de jeunes vivent dans le chômage et la pauvreté. Et cela a pour conséquence ce que nous appelons aujourd'hui les enfants de la rue, les Kuluna et tous ceux qui sont en train de semer la terreur au sein de nos populations. Donc ce projet va permettre à ce que l'emploi décent soit créé en faveur des jeunes et cela mettra fin au chômage et à la pauvreté dont souffrent les jeunes. Et aussi la conséquence totale serait la disparition de cette bande des Kuluna, des jeunes désœuvrés qui sont en train de vraiment créer un malaise au sein de nos populations.
Je suis Dieu merci Bacino, président de La Voix Citoyenne, en sigle La Voici. Le projet, vraiment, c'est juste une suite d'un processus. Donc vous savez que nous, les leaders des jeunes, nous avons beaucoup plus travaillé sur ce projet. Bon, jusque là, nous sommes en train vraiment d'applaudir avec les initiatives que les autorités sont en train de faire, mais nous voulons maintenant la matérialisation. D'ailleurs, aujourd'hui, nous déplorons l'absence du ministre de la Jeunesse, parce qu'il devait aussi prendre part à cette grande rencontre. Donc, c'est important, c'est pour ce projet-là. Il y a beaucoup de choses au niveau de la jeunesse. Et pour essayer un peu de mettre fin à ces choses-là, il faut des initiatives de création d'emplois, entrepreneuriat. C'est ce qui nous préoccupe au niveau de la jeunesse congolaise.
Rendons-nous à présent à Goma, dans le Nord Kivu, où Rosalie Zawadi s'est entretenue avec Amida Binti Daoudi, l'une des 1000 lauréats de la 4e vague des jeunes professionnels officiels, recrutés sur toute l'étendue de la République. Âgée de 32 ans, avec sa licence en droit, elle se dit prête à contribuer efficacement au chantier de la reconstruction du pays. Dans cet entretien, elle nous parle de son parcours et de ses ambitions au sein de l'administration publique. Pour elle, il faut des préalables pour que ces jeunes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. On l'écoute.
Mademoiselle Amida, vous êtes aussi dans ce groupe des jeunes professionnels. Pour commencer, parlez-nous de votre parcours. Comment vous êtes retrouvée dans ces groupes?
Au fait, j'avais suivi sur Radio Okapi, il y a une dame qui est passée et qui a parlé de la réforme d'administration publique, que le gouvernement cherchait à recruter des jeunes professionnels. Et j'étais intéressée. J'étais d'abord au Katanga, je suis venue, c'était au mois d'août 2017. Je suis arrivée ici, il y a des cousins qui avaient déjà postulé et qui m'ont intéressée, parce que je ne suis pas du Nord, je suis du Katanga, qui m'ont intéressée. Et j'ai aussi voulu apporter quelque chose à notre pays. J'ai postulé, ça a marché pour moi, ça a été, c'est une joie pour moi et pour mes parents et aussi pour la République.
Et là, vous êtes en train de terminer le 2 mois de formation. Comment vous sentez-vous?
Je me sens capable d'être peut-être même ministre, si je peux le dire ainsi. Je me sens capable d'apporter une brique à la reconstruction de notre pays. Parce que le Congo est en plein chantier. Il y a le président qui est passé, l'autre qui vient d'arriver, qui a besoin du tonus, qui a besoin de la jeunesse, parce qu'on ne peut pas parler de la réforme sans la jeunesse. Donc on est prêt, pas seulement moi, il y a d'autres collègues qui sont prêts pour apporter quelque chose à notre pays.
Vous allez travailler, vous allez intégrer la fonction publique. Quelles sont vos attentes?
D'abord, la fonction publique, oui. mais pas n'importe où quand même. Dans des ministères, comme l'était d'ailleurs là souligné, il y a des ministères pilotes. Et c'est pour ça même que j'ai postulé. Je ne pense pas, je ne compte pas aller n'importe où dans la fonction publique.
Ça veut dire quoi, n'importe où dans la fonction publique?
Lorsqu'on parle de la fonction publique en République démocratique du Congo, on voit d'abord la misère. On voit des divisions qui n'ont pas de bureaux. Il y a des bureaux où on peut vous amener quelque part, mais il n'y a pas de chaise. Donc tu dois apporter la chaise de chez toi et l'amener au bureau. Je pense que dans ces conditions-là, je ne saurais pas servir mon pays.
Alors, parlons justement de la perception de la fonction publique par les jeunes. Souvent, les jeunes universitaires ont des ambitions, pas vraiment, d'aller dans la fonction publique. Comment vous avez postulé à l'offre alors que vous saviez que c'était pour la fonction publique?
Au fait, moi, j'ai fini en droit et entendant les discours de nos autorités, ils parlent de la lutte contre la corruption, l'état de droit. Et je pense que dans ce sens, c'est dans ce sens-là que moi, je peux aider mon pays, pas ailleurs. Parce que moi, j'ai fait le droit. Et je pense que c'est dans la justice, peut-être, que je peux apporter quelque chose.
Donc, après ces 2 mois de formation, il y a 4 mois de stage. Donc, vous vous attendez à aller dans un bureau bien équipé?
Je cherche, oui, à aller dans un bureau bien équipé parce qu'on ne peut pas travailler dans des mauvaises conditions et compter apporter quelque chose à la reconstruction ou à l'épanouissement du pays. Je ne pense pas qu'en travaillant dans des très mauvaises conditions, qu'on puisse apporter quelque chose. Il faut quand même qu'on soit dans des bonnes conditions et aussi une très bonne rémunération, pourquoi pas.
Est-ce que ce n'est pas votre arrivée dans ces mauvais bureaux qui peut améliorer les choses?
Je pense que c'est le début d'une chose qui détermine sa fin. Je ne pense pas si je me retrouvais dans des conditions qui ne sont pas réunies et que je puisse apporter quelque chose pour mon pays. Donc, il faudra quand même que l'État congolais puisse penser à nous, à nous recevoir dans de bonnes conditions pour qu'on puisse apporter du tonus à ces changements-là que veulent nos autorités.
Restons toujours dans le Nord Kivu, où 38 jeunes professionnels vont bientôt intégrer la fonction publique. Ils font aussi partie de la 4e vague du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, un programme du gouvernement appuyé par la Banque mondiale. Ils viennent de terminer leur formation de 2 mois en salle et c'est très motivé qu'ils se préparent à entamer leur stage de 4 mois. Au niveau de la fonction publique, l'arrivée de ces jeunes est très attendue, étant donné qu'il y a au moins 2000 personnes éligibles à la retraite dans cette province. Comment ces jeunes perçoivent-ils l'administration publique et quelles innovations comptent-ils apporter? C'est un dossier que Rosalie Zawadi a préparé pour vous.
Donc on peut remplacer stratégie par titre du projet, tout comme on peut remplacer stratégie par...
Ici, ces jeunes suivent un module sur la planification des projets. Détenteurs au moins d'une licence dans des facultés différentes, ces jeunes sont formés depuis le 5 août dernier. Très motivés, ils sont engagés à apporter les changements dans l'administration publique. C'est le cas de Kioyo Sifa, 30 ans, licencié en sciences commerciales et administratives.
Moi, personnellement, j'enviais travailler à l'État congolais. Même quand j'étais sur le banc de l'école, je disais à mes amis que non, mes parents n'ont pas eu la chance de travailler dans une administration publique. Donc, ils n'ont pas eu la chance de travailler pour le compte de notre pays, à l'État, disons. Et moi, un jour, je finirai ma carrière à l'État congolais. Et quand c'est arrivé, vraiment, c'était une grande joie pour moi. Parce que c'était mon ambition. Et aujourd'hui, je vois que c'est réalisé. Vraiment, je suis très contente. Et je sais que je vais mieux travailler pour mon pays. Tu vois, là, avant, il n'y avait que de vieillards. Mais aujourd'hui, avec les rajeunissements, il y a les jeunes, il y a les gens qui sont encore forts, qui vont travailler dans l'administration. Je sais que tout va s'améliorer, qu'on ait des bureaux ou pas, c'est pas un problème. Mais en étant dans la boîte, on aura où se mettre, on saura comment travailler pour faire évoluer notre pays.
Conscient des attentes de la population vis-à-vis de la fonction publique, Sadiki Grégoire, licencié en géologie à l'université de Goma, s'est dit prêt à relever les défis.
Nous entrons dans un moment propice, dans un gouvernement où on essaie encore de rechercher la bonne qualité de l'administration publique. Nous entrons dans un processus pour lequel le gouvernement s'attend au mieux de l'administration. Non seulement cela, mais aussi la population attend beaucoup de ce régime. Alors du coup, on se sent d'attaque. Nous savons que ce ne sera pas toujours facile. Il y a des problèmes qui sont observés. Et pour l'instant, je suis sûr que nous finirons par apporter quelque chose, bien que minime, mais ce sera au moins quelque chose qui pourrait se mesurer, je crois.
Accent Tibadesiré est détentrice d'une maîtrise en entrepreneuriat, gestion des affaires et stratégie. Elle souhaite, pour une plus grande efficacité, que les affectations dans la fonction publique puissent tenir compte de la formation universitaire de chaque jeune.
Maintenant, on attend d'être dans le ministère pour pratiquer, pour voir si on va arriver à s'intégrer comme il faut. Parce qu'il y a beaucoup de challenges quand on sera au niveau maintenant de la pratique. J'aimerais quand même apporter une pierre à l'édifice qui est l'administration publique en RDC. Mais pour que je puisse apporter cette contribution à l'administration congolaise, il y a certains préalables qu'on doit quand même respecter dans l'administration. Mais aussi que ma connaissance, tout ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé mes études, puisse être quand même un plus pour notre administration.
Pour sa part, Mme Odile Kakourossi, chef de division de la fonction publique au Nord Kivu, salue l'arrivée de ces jeunes, arrivée qui va faciliter la mise à la retraite progressive des fonctionnaires qui ont au moins 65 ans d'âge.
Ils seront dispersés dans plusieurs divisions. Je vais préparer les collègues qui vont les accueillir pour faire voir comment l'administration marche dans leur division. Nous allons leur apprendre comment l'administration se comporte. Comme je connais leur programme, dès qu'ils terminent, on va les affecter dans différentes divisions pour les stages. Les 38 par province, c'est un peu après, parce que ça va aller par tranche. C'est suffisant, le nombre est suffisant pour remplacer tous les coups. Il y a plus de 2000 personnes éligibles à la retraite au Nord Kivu. Nous sommes plus de 2000 dans les différents services. Moi-même y compris, parce que j'ai déjà 65 ans compris. Alors, les 38, ça va. Le premier vague peut avaler déjà les 38 personnes.
Ces jeunes espèrent qu'il n'y aura pas une longue période de transition entre la fin de la formation et les débuts du stage professionnel.
Nous restons toujours en compagnie de Rosalie Zawadi, qui a également interrogé le professeur Augustin Mutabazi, responsable de la formation des jeunes professionnels officiels pour les deux Kivu et le Maniema. Il nous explique comment s'est déroulée cette formation.
Les modules ont été élaborés par l'ENA à Kinshasa. Ils ont été envoyés. Nous avons fait un atelier de validation avec les formateurs qui ont été retenus sur base d'une sélection de 3 CV. Et donc, globalement, les formateurs ont vraiment les compétences requises et l'expérience. Jusque-là, partout, les modules ont été enseignés. Il n'y a pas de plainte du côté enseignant. Et partout, il reste deux modules, parce que d'ici les cinq, nous allons terminer partout.
Donc à Goma, à Bukavu et à Kindu.
À Kindu, exact.
Oui. Et au niveau des jeunes eux-mêmes, comment vous avez évalué leur niveau? Est-ce qu'ils étaient à la hauteur?
Tout à fait. Il faut dire que la sélection au départ était très 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 rigoureuse. Que ce soit à Kindu, à Goma ou à Bukavu. Et les 39 retenus par province ont passé un examen, un test national, corrigé par des inconnus. Ça a été corrigé, on ne sait pas, en tout cas c'était anonyme. Donc la sélection a déjà été très rigoureuse. Ce sont les meilleurs de nos universités. Alors, il faut aussi avouer que quand même, à Goma et à Bukavu, la qualité de l'enseignement est encore, je pense qu'elle est au-dessus même de la moyenne du pays. Donc ce sont de très très bons étudiants que nous avons reçus et les réactions en salle se font bien bien remarquer. Ils participent et même on va au-delà même des modules, c'est-à-dire il y a des exercices, il y a des retouches, ce qui nous permettra d'ailleurs de proposer des améliorations des modules pour la prochaine vague.
Qu'est-ce que la formation veut leur apporter de plus, étant donné qu'ils ont déjà un très bon niveau universitaire?
Effectivement, vous voyez qu'ils viennent de partout. Il y a des économistes, il y a des juristes, il y a des géologues. J'en ai vu deux géologues à Bukavu, deux géologues à Goma. Il y a des agronomes, ils viennent, même des médecins. Alors on ne sait pas, ils seront affectés dans plusieurs divisions, à plusieurs ministères. On veut qu'ils aient l'ABC de l'administration. C'est-à-dire qu'ils aient le même, on me remet à zéro si je peux dire ainsi, les connaissances. Concrètement, c'est des gens qui doivent être capables de prendre des comptes rendus. Qu'on ait fait les droits ou la géologie, il faut que ce soit des gens capables de prendre des comptes rendus de réunion, de lire les textes organiques, c'est la décentralisation par exemple, il y a eu des modules sur la décentralisation, qu'ils soient capables de participer à l'élaboration du budget du ministère, pourquoi pas de la province, ce qui suppose qu'ils aient une formation minimale en droit, en fiscalité, en finances publiques. Il faut qu'ils soient capables d'élaborer des projets. Parce que l'amélioration de la gouvernance passe par l'amélioration du bien-être de la population. Et on ne peut améliorer le bien-être que si on met en place des projets qui produisent des résultats. D'où des modules comme la gestion axée sur les résultats, la budgétisation axée sur les résultats, les finances publiques, l'élaboration de projets et programmes publics. Et évidemment, il faut qu'ils soient formés en éthique. Parce que le grand problème que nous avons dans l'administration, c'est quand même un problème d'éthique et de morale. Et donc, il y a des cours de ce genre, éthique et déontologie du fonctionnaire. Et aujourd'hui, à l'ère de l'informatique, on ne peut plus se passer de l'outil informatique. Et donc, tous doivent apprendre à manipuler l'ordinateur. Ils ont même eu chacun un ordinateur neuf. Et donc, il y a eu un module sur l'ABC et l'informatique.
Oui. Et vous avez eu à faire face à quelques défis pendant ces 2 mois de formation?
Oui, oui, quelques défis. C'est vrai, on a eu quand même des difficultés. Il y a eu des cas de maladie. Il y a eu, par exemple, ici à Goma, il y a 2 qui sont hospitalisés. On a eu une petite difficulté. Les ordinateurs sont arrivés en retard, mais finalement, ils sont quand même arrivés. Mais globalement, il n'y a pas eu de difficultés majeures. Mmh. Oui, oui.
Et maintenant, ils sont en train de terminer. Donc, ils terminent leur programme de formation en salle de 2 mois. Mmh. Et pendant leur stage de 4 mois, vous aurez aussi à les suivre?
Non. Nous, notre mandat se limite à la formation en salle. Après, donc, les 2 mois d'ici une semaine, nous allons être relayés par les chefs de division de la fonction publique et les chefs de division du plan. C'est eux qui seront les maîtres de stage. Donc, en principe, nous, notre mandat sera terminé. Cependant, avec le projet PRAP, nous aurons la possibilité l'année prochaine de continuer la formation, mais de façon ciblée pour les autres fonctionnaires. Vous voyez, ils vont travailler avec peut-être des fonctionnaires qui ne sont pas mis à niveau. Il ne faudrait pas qu'on ait une administration à 2 vitesses. Concrètement, il n'est pas exclu, par exemple, que les autres fonctionnaires qui vont rencontrer demandent d'être formés en gestion axée sur les résultats ou en informatique de base. Et même, une fois sur le terrain, ils peuvent réaliser qu'ils ont encore besoin d'une formation spécifique. Mais c'est là où nous pouvons encore intervenir dans des formations ciblées en matière de leadership, de garde, d'informatique et finances publiques.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas manqué de rappeler sa vision pour l'éducation et l'emploi des jeunes dans son discours le 26 septembre dernier à la tribune des Nations Unies. Je vous propose de boucler ce nouveau numéro de 100% jeunes à travers l'extrait de son allocution.
Le défi de l'accès à une éducation de qualité pour tous, second sujet du thème de la présente session, nous interpelle tout particulièrement car l'expérience du développement des décennies post-indépendance a renforcé notre conviction qu'il n'est de richesse que l'homme. C'est pourquoi, depuis 2011 déjà, nous avons fait nôtre l'idée forte de l'agenda 2030 de ne laisser personne pour compte, leave no one behind. À travers notre engagement bien connu de mes compatriotes intitulé « Le peuple d'abord ». Aussi, les grandes priorités sociales de mon mandat sont définies comme suit. Premièrement, rendre effective la gratuité de l'éducation primaire dans l'enseignement public tel que l'exige la Constitution de mon pays. Cet engagement est effectif depuis le début de ce mois sur toute l'étendue du territoire national. Deuxièmement, promouvoir une meilleure adéquation entre l'enseignement et l'emploi à travers une stratégie de formation technique et professionnelle ambitieuse, conçue et mise en œuvre en partenariat avec le secteur privé.
Ainsi prend fin ce 100% jeune consacré aujourd'hui à l'emploi des jeunes et leur réinsertion socio-professionnelle. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa production, Jean-Désiré Kanyama, Jean-Marc Matouaki, Hervé Voka et Rosalie Zawadi. La prise de son a été assurée par Dieudonné Nyangassa et ce 100% jeune a été supervisé comme l'accoutumé par Thérèse Kankou. Moi c'est Baya Chamala, je vous propose un nouveau rendez-vous pour la semaine prochaine, même heure, même radio. Ciao ciao.